Radio Barc, troisième. Alors, nous resaluons notre invité, Éric Mellé.
Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Bonjour.
Je rappelle que, alors professionnellement, on va commencer par là, vous êtes pompier depuis fort longtemps. Vous avez fait une carrière dans divers coins de France avant de revenir sur votre territoire natal, la Narbonnaise. Vous vous êtes engagé au début des années 2000 essentiellement dans l'humanitaire, d'abord localement, puis à l'international. Vous avez pas mal travaillé sur diverses opérations à ce niveau-là. Et puis vous êtes entré en politique peut-être un peu plus récemment. On verra d'ailleurs ce qui a pu vous motiver à ce niveau-là. Vous avez été en 2008 conseiller municipal à Montredon-Corbières, votre commune. Et puis 6 ans après, vous deveniez maire en 2014 et vous faites partie un peu de ce renouvellement de la classe politique, notamment de gauche, dans la Narbonnaise. Alors Éric Mellé, en tant que...
Il est aussi conseiller communautaire.
Conseiller communautaire et vice-président.
Et vice-président, mais
on va l'aborder également puisque vous avez une vice-présidence. Peut-être d'abord votre mandat de maire. Alors, c'est une question que l'on pose de plus en plus aujourd'hui à l'heure de l'agglomération et de l'intercommunalité. Beaucoup de compétences sont parties vers les intercommunalités. Que reste-t-il à un maire aujourd'hui dans sa commune? Quel pouvoir a-t-il? Que peut-il faire?
Compétences directes.
Directes.
Alors, Jean-Claude, bien, tout d'abord, je vous remercie d'avoir fait un rappel succès de ma carrière. Hein. On en restera là, hein. On ne m'a pas développé ça. Au niveau de la commune, donc, effectivement, Mordon-des-Corbières, 1420 habitants, à l'ombre de Narbonne, hein, à l'ouest de Narbonne, une commune qui est en plein développement. Bien sûr, c'est un choix hein, de ce développement. Ce choix, il a été voulu dans les années 70 hein, par la création au départ d'une petite zone d'activité qui avait à l'origine une vocation uniquement logistique. Et puis, en fait, il s'est avéré que ce choix-là a été déterminant pour le devenir de la commune.
Vous parlez de la zone industrielle.
Je parle de la zone initiale.
La nationale.
Voilà, c'est ça.
La route nationale.
Je parle de celle-là. Voilà. Et donc, ça a été prépondérant dans la suite du développement de la commune et donc qui est bien sûr intéressant pour la commune de Mordon-des-Corbières, mais bien au-delà, hein, c'est-à-dire on est sur un intérêt en termes d'économie, un intérêt en termes de développement au niveau de tout le territoire du Grand Narbonne.
Oui, parce que aujourd'hui, la plupart des grands projets de l'agglo se situent, curieux hasard, sur Montredon.
Alors ce n'est pas un hasard, hein. Il faut savoir que on détermine donc la réussite d'un projet lorsqu'on en entend parler, lorsqu'il va se réaliser. Il faut savoir que pour que ces projets viennent sur la commune de Mordon-des-Corbières, ça a demandé des années de travail, des années en comité de pilotage, bien sûr, du lobbying, vous en doutez bien, pour qu'à un moment, eh bien, les décideurs et les investisseurs ils viennent sur cette commune. Voilà. Mmh. Et puis ensuite, en termes de développement, il y a eu donc en 2003 la communauté d'Aglo, et donc avec la volonté de développer cet axe-là.
Et de poursuivre une action déjà entamée.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, effectivement, on a assisté à une explosion de cette zone d'activité, donc avec la zone de la plaine, hein, qui est actuellement quasiment pleine. Je crois qu'il reste 4 terrains hein, à finir de vendre. Et ensuite, donc, bien sûr, derrière, en poursuivant, hein, jusque dans la direction de Lézignan, le Médipôle, dont j'ai signé le dépôt du permis de construire hier.
Très récemment,
hier,
voilà.
Hier, ça s'est fait hier.
Une grosse opération.
Voilà, une grosse opération. Hein. On parle de 9 hectares de construction. Sur 9 hectares, 36 000 m² de plancher, c'est quelque chose d'énorme, mais qui va être le tremplin et au développement ensuite de la suite de cette zone d'activité qui va jusqu'aux éoliennes de Nevillan. Donc on est sur 150 hectares de zone. Voilà.
Alors ce pôle médical, pouvez-vous le décrire succinctement? Puisque le pôle médical, c'est encore assez abstrait. Il y aura une polyclinique, il y aura de la recherche médicale, c'est ça?
Donc en fait, c'est le regroupement de la polyclinique et de la clinique Garbette, qui laissent les établissements où ils sont actuellement, hein, et donc transfert sur la zone de Mordon-des-Corbières. pour construire un nouvel établissement avec bien sûr tout ce qui est hospitalisation, traitement, mais aussi tous les services annexes médicaux qui vont être autour. Donc on parle de 9 hectares initialement, mais ensuite on est sur 12 hectares puisqu'on a des services autres, type kiné, kinésithérapeute, pharmacie, etc., qui vont venir s'installer en périphérie de ce Médipôle.
Voilà, donc qui deviendra véritablement un pôle médical et attractif, puisque rassemblant un certain nombre d'éléments essentiels. Puis après, comme on le sait, on ne prête qu'aux riches. Alors quand on commence à exister, on attire encore davantage. Mmh.
Tout à fait. Donc il y a aussi d'autres projets. Alors je voudrais revenir quand même à la commune de Mordonne-des-Corbières. Oui. Parce que quand même, c'est pour ça que je suis là.
Vous en êtes le maire.
Bien sûr. Donc conseiller municipal en 2008, vous l'avez rappelé. Et puis en 2014, donc l'élection en tant que maire. Donc là, d'entrée avec la nouvelle équipe, nous avons voulu mettre en place une nouvelle gouvernance qui s'appuie notamment sur la démocratie participative. C'est un bien grand mot, mais on a voulu le mettre en réel. Et donc, bien sûr, pour la mettre en œuvre, il faut se doter de moyens. Donc, on a mis en place des élus référents de quartier en lien direct avec les administrés. Également la mise en place des commissions thématiques. Alors dans les commissions thématiques, on peut citer la commission de travaux, enfance jeunesse, impôts, le CCAS, appel d'offres, etc. Et donc dans ces commissions, la volonté a été à la fois d'impliquer les opposants, mais aussi d'impliquer les citoyens non élus pour qu'ils puissent donner leur avis et dans les orientations qui sont prises par l'équipe aux responsabilités, et bien parfois apporter des réflexions extrêmement pertinentes et qui nous permettent d'orienter le projet ou de le bonifier.
Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez l'équivalent des conseils de quartier qui existent dans certaines villes?
Alors, les conseils de quartier donc sont animés par les élus référents. Ils se réunissent uniquement sur des thématiques bien précises, c'est-à-dire lorsque des travaux vont impacter le quartier. Par exemple, à une construction future ou un aménagement futur. Et donc là, on réunit les riverains les plus proches. Mmh. C'est l'élu référent de quartier qui s'en occupe.
Mais c'est selon l'actualité. Voilà, c'est pas régulier.
Non, c'est pas régulier. Il n'y a pas de réunion régulière. Voilà. Alors, ce qu'on peut regretter dans cette démocratie participative qui marche très bien, c'est le manque d'implication au niveau de nos opposants, qui, depuis le début du mandat, mais c'est assez récurrent, donc font du déni de démocratie, c'est des critiques permanentes, et ensuite surtout, et ça c'est bien dramatique, aucune proposition. Les propositions, elles viennent de gens qui ne sont pas élus. Voilà, et c'est bien, bien dommage.
Comme quoi la démocratie participative, c'est une belle notion, mais encore bien difficile à appliquer sur le terrain.
D'une part, et puis elle a ses limites aussi. Mmh. Voilà. Ensuite donc, nous avons mis en place la mission emploi. Donc la mission emploi, en fait, c'est la mise en relation, la municipalité se met en intermédiaire entre les entreprises et donc les propositions d'emploi et les chercheurs d'emploi que nous avons sur la commune. Voilà, c'est juste une mise en relation qui a été plébiscitée à la fois par les entrepreneurs mais aussi par les chercheurs d'emploi, puisque nous en sommes à un peu plus de 8 personnes que nous avons réussi à placer et dont les recherches ont abouti. Ensuite, la mise en place du dispositif saisonnier, Primo Emploi, donc ça c'était une volonté aussi du mandat, de mettre un premier pied à l'étrier dans le milieu du travail à des jeunes de notre municipalité. Et c'est ce que nous avons fait. Donc chaque année, nous prenons environ 12 à 15 jeunes de la commune qui viennent pendant la période des congés des agents et bien renforcer les équipes et travailler. Voilà.
Ils sont saisonniers, quoi.
Voilà, tout à fait. Ils sont saisonniers. Ensuite, la mise en place donc de la participation citoyenne, c'est une volonté également au niveau de la sécurité. On le sait, proximité de Narbonne, donc inévitablement, on a un transfert de quelques comportements délictueux qui viennent vers sur la périphérie de la ville, et donc la volonté avait été un peu de réimpliquer le citoyen dans sa propre sécurité, et donc avec la mise en place de référents qui sont directement en liaison avec les forces de gendarmerie pour prévenir sur des situations soit délictueuses ou alors des personnes qui ont comportement douteux. Donc ça, ça a été mis en place.
Si vous permettez une petite parenthèse, à propos de sécurité, certaines communes voisines notamment ont opté pour l'extinction des feux pendant la nuit, de l'éclairage public, pour faire des économies, on s'en doute. Où en êtes-vous sur cette réflexion à Montredon-Corbières ?
Alors, on le sait, Jean-Claude, la volonté au niveau des communes, c'est de d'une part de faire des économies et de maîtriser le budget. Et donc, dans ce cadre-là, nous n'avons pas choisi cette orientation. Elle nous a pas semblé
la plus judicieuse
pour la simple et bonne raison, c'est que quand on diminue, voire on éteint l'éclairage dans des zones pavillonnaires ou autres, il y a à la fois un sentiment d'insécurité et puis
une vraie insécurité
qui peut s'installer. Et donc la volonté a été de maintenir l'éclairage. En revanche, depuis maintenant un an, donc 2015, 2016, 2017, sur 3 ans, nous sommes en train de un grand chantier, la réfection de l'éclairage public et une remise à niveau de l'éclairage public dans une volonté bien sûr de faire des économies. L'économie, l'estimation, on sera à près de 50 voire 60% d'économie sur les consommations en termes d'éclairage public. Donc en fait c'est
grâce,
un changement.
Grâce au renouvellement du parc en quelque
c'est,
sorte.
Voilà, c'est un changement de l'ensemble des dispositifs éclairants, puisqu'on a encore sur la commune, enfin là maintenant on n'en aura plus, des lampes, ce qu'on appelle des lampes à vapeur de mercure qui étaient énormément énergivores et ensuite qui est extrêmement polluant. Donc on passe sur des éclairages moins énergivores et bien sûr moins polluants pour in fine, et là ce sera dans une autre phase, beaucoup plus tard, passer sur du LED, voilà, tout simplement.
Oui, voilà. Donc vous avez choisi de maintenir l'éclairage, mais en réduisant les coûts par des nouvelles technologies, en quelque sorte.
Tout à fait, c'est ça. Voilà.
Parmi les gros projets, alors ça n'est pas l'agglo, ça n'est pas la ville, mais c'est quand même un gros, gros projet pour Montredon, il y a la future gare TGV, dont le lieu est choisi. Et qu'est-ce que ça implique au niveau de votre réflexion quotidienne ?
Alors, là aussi, vous vous doutez bien que ce type de grand projet, ça n'arrive pas comme ça. La gare LGV et la ligne LGV, on en parle depuis 30 ans.
Oui, 20 ou
30
ans.
À peu près 30 ans, oui. Et donc là, effectivement, il y a eu tout ce qui était consultation publique, etc. Les, bien sûr, comités de pilotage, extrêmement importants, puisque c'est là où tout se décide. Et donc on a actuellement au niveau du projet le périmètre assez défini, on va dire, de ce qui va se faire. Donc à la fois la ligne LGV Perpignan-Montpellier, et surtout, et ça c'était important pour l'ensemble du territoire, mais bien au-delà du territoire du Grand Narbonne, je crois qu'il y a toute l'Aude et aussi bien plus largement, qui va bénéficier de cette gare LGV. Et donc le site, et ce n'est pas par hasard, qui a été choisi, c'est le pont des Charrettes, là où a eu lieu la fusillade en 1976.
Ah oui, triste mémoire.
Au pont de Mordon. Voilà. Voilà. Donc, sur le plan économique, extrêmement important, la ligne bien sûr, mais surtout cette gare. Pourquoi ? Parce que elle va, dans les estimations qui sont données, on est sur 1,5 million de voyageurs.
C'est ce qui est donné. Par an, oui.
Voilà, 1,5 million de voyageurs par an. Donc derrière, ça va permettre, en mettant Paris à peu près 3 heures. D'avoir en fait, en termes d'urbanisation et de développement, puisque l'économie aussi se nourrit des vecteurs de transport.
Bien entendu.
Et donc elle a besoin de ça. Donc la communication existe, et y compris la communication par des vecteurs de transport.
Donc ça, c'est un gros, gros dossier,
voilà,
évidemment,
gros dossier.
Si vous ne maîtrisez pas tout, pour la ville de Montredon.
Voilà, donc la déclaration d'utilité publique devrait être prononcée en juin 2016, et pour le début de l'enquête publique, fin 2016. Voilà, ce sont les dernières...
Un dernier point pour conclure, Éric Mellé. Je disais tout à l'heure que vous vous êtes engagé il y a une quinzaine d'années dans l'humanitaire et notamment au niveau international. Est-ce que c'est ça qui vous a amené peut-être à vouloir vous impliquer dans le politique ensuite ? Est-ce que ça a changé votre vision des choses ?
Alors je crois que l'implication... Alors, pas forcément de la politique. Enfin, c'est la politique telle que je la conçois, hein, mais mon implication pour les citoyens et pour les autres, elle date de bien avant cela, hein, puisque si on prend en 1982, moi j'ai fait mon armée en gendarmerie haute montagne, c'était pour faire du secours en montagne et aller faire du portage au niveau des refuges et aider à la fois les touristes qui faisaient de la montagne et qui quelquefois se blessaient et aussi les structures qui travaillaient dans des situations extrêmement difficiles. Mais bien au-delà, donc ensuite sapeurs-pompiers, vous l'avez dit, et puis toujours, toute ma vie, elle a été tournée vers les autres et c'est ma façon de faire la politique. On est dans un prolongement. C'est-à-dire, je crois, je suis intimement convaincu qu'un élu, quand les citoyens choisissent de le mettre en place, eh bien, il est au service de ses concitoyens, que ce soit sur la commune ou quel que soit le périmètre, ou au niveau du Grand Narbonne. Voilà. C'est son rôle, c'est... Voilà. Et quelquefois, malheureusement, on assiste à d'autres comportements. Lié à des égos, lié à des calculs, et c'est vrai que je me sens particulièrement mal à l'aise par rapport à ces comportements-là. Moi, pour moi, la fonction d'élu, elle va complètement dans le prolongement de l'humanitaire, de mon rôle de sapeur-pompier, ou lorsque j'étais en gendarmerie haute montagne, c'est-à-dire au service du citoyen, au service des populations, et pour bonifier un territoire. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important.
Eh bien, merci de votre témoignage, monsieur le maire, Éric Mellé. Donc, bon, on n'a pas eu le temps d'aborder le Grand Narbonne et l'agglo, mais ça sera pour une prochaine fois, puisque
dommage parce qu'on aurait pu parler à la fois des deux services dont je m'occupais.
Mais vous reviendrez à ce micro très prochainement. Et
j'ai bien compris, Jacques-Claude. C'est extrêmement court.
J'ai des questions moi aussi à lui poser.
Voilà. Le prochain invité, eh bien, ça sera encore un maire d'une commune de la Narbonnaise. Ça sera Guillaume Heras, qui lui est à Saint-Marcel et qui nous parlera, ben, là encore, de sa commune, mais aussi avec son regard sur son action au sein du Grand Narbonne. Merci Éric Mellé et à la semaine prochaine.
Merci Jean-Claude, merci Michel. Au revoir.
Au revoir.